que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait, pour calmer tout le monde, que je prouve à tout le monde que j'étais le meilleur avant même de prononcer un mot.
Depuis sa création en 1974, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a interpellé 1500 criminels, libéré 600 otages et maîtrisé 300 forcenés.
Je m'appelle Axel.
En vous.
Je suis négociateur au GIGN.
C'est otage, tout le monde.
Un jour, on nous appelle pour une prise d'otage. Un voisin a pris en otage un couple plus une petite fille de 9 ans. Nous, au GIGN, on sait que c'est dangereux. Mais un gendarme traditionnel, lui, il ne sait pas, donc il est obligé d'aller sur le terrain. Et quand il a frappé à la porte de cette famille, ben, le preneur d'otage a ouvert la porte, il a tué le premier gendarme à bout portant. Le deuxième gendarme s'est sauvé et il lui a mis une balle dans le dos. Donc on a deux gendarmes de mort et une famille de pris en otage. Je lui parle et à un certain moment, je lui demande « Est-ce que tu as besoin de nourriture? Est-ce que tu veux quelque chose ?» Il me dit « Oui, j'aimerais avoir une pizza. » Et je lui dis « Et les personnes qui sont avec toi ?» Il me dit « Ils n'auront plus jamais faim. » Il met son arme en direction de ma tête et il me dit « Tourne-toi, lève ta veste. » Je lève ma veste et il voit mon pistolet automatique. Et là, il me dit « T'es un salaud, tu m'as menti. Je vais te buter. » On communique avec nos sensations. Donc plus tu vas être une personne sensible, plus tu vas pouvoir comprendre les émotions des autres. L'intelligence émotionnelle, il faut deux gros ingrédients, c'est...
Tu pourrais nous raconter une prise d'otage qui pour toi a été la plus stressante par exemple. Et du moment où on te sollicite, on te dit voilà, il y a une prise d'otage, à t'arrives sur place, ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe, le stress, comment tu le gères, puis la négociation, comment ça se passe jusqu'à la fin. J'aimerais avoir l'opportunité de vivre une prise d'otage en t'écoutant. Donc fais-moi rentrer dans ton univers.
J'étais pendant 10 ans au GIGN et donc on s'occupait du grand banditisme, du terrorisme, des prises d'otages, toutes les grosses missions. Et en fin de compte, comment ça se passe? Malheureusement, souvent ça se passe la nuit. À 2h du matin, le téléphone sonne, on a 5 minutes pour atteindre le GIGN.
Toi, t'es dans ton lit, tu dors.
Voilà. Tu dors, le téléphone sonne, dans les 5 minutes, il faut que tu sois au GIGN. Donc on est logé par l'État à côté du GIGN. Là, tu sautes dans ton pantalon, t'as pas le temps d'embrasser ta femme, t'as pas le temps de regarder tes enfants. Tu pars directement au GIGN et tu sais pas où tu pars.
Tu ressens quoi là quand il se passe ça?
L'adrénaline. T'es là pour ça, t'es là pour sauver des vies. Donc là, ça y est, ton cœur bat à 100 km/h, à 100 à l'heure et tu te dis, mince, ça y est, là, je vais être employé dans ce que je sais faire. En plus, il y a l'incertitude, tu ne sais pas où tu vas. Si tu restes en France, tu peux partir en Afghanistan, tu peux partir au Mali parce qu'on a une compétence internationale, mais 90% c'est en France. Donc tu arrives au GIGN et là, les gens sont tellement motivés que souvent il y en a qui sont déjà là avant toi, pourtant tu te dépêches. Hein. Et tu arrives, on est 10 personnes super motivées et on attend que les missions, on est entraîné pour ça, donc on attend que ça et on a de la chance de faire beaucoup d'entraînement, mais beaucoup de missions aussi. On fait à peu près 300 à 400 missions par an. Mais là, tu sais pas encore si tu es... Alors moi, j'étais négociateur, mais un négociateur peut être dans la colonne d'assaut si on n'a pas besoin de négociation. Donc tu sais pas encore si tu vas être dans la colonne d'assaut ou tu vas faire de la négociation. Donc tu arrives au GIGN et là, tu as un briefing qui est fait par ton chef de groupe. Il te dit la mission, si c'est un forcené, si c'est une prise d'otage, si c'est du terrorisme, etc. Il te dit la situation globale et il nous dit nos places. Et là, il me dit négociation. Donc je sais que je suis à la négociation.
Moi, tu me réveilles à 2h du matin pour me raconter que je vais aller parler à un forcené. Je suis un peu stressé. Il se passe quoi en toi à ce moment-là?
Alors justement, on n'est pas stressé. Pourquoi? Parce que c'est notre quotidien. Nous, on fait ça tous les jours, donc ça devient une habitude. On a moins de stress que si, par exemple, quelqu'un de novice vient nous accompagner. Là, il va être énormément stressé. Mais nous, on fait partie d'un groupe. Il y a une cohésion intense chez nous, immense chez nous, et on va tous s'entraider. Donc à partir de là, tu n'es jamais seul et tu vas pouvoir surpasser cette peur, surpasser ce stress parce que le stress est partagé entre 10 bonhommes. Et là, c'est beaucoup plus supportable quand il est partagé, ce stress.
C'est une équipe.
Ouais, c'est une équipe très soudée, ouais.
Et donc, cette adrénaline, quand tu la ressens, est-ce que tu essaies d'être dans le présent? Est-ce que tu essaies de respirer? Enfin, c'est quoi, en fait, en toi? J'ai compris, le cœur, il bat fort. Il y a de l'adrénaline, tu sais que tu as une mission. J'ai l'impression, à te voir, qu'il y a même une forme d'excitation.
Enfin, c'est ça, d'excitation, oui. Heureusement qu'il y a cette adrénaline, parce qu'il est 2h du matin, tu es fatigué. Et là, cette adrénaline te permet de te ramener à un seuil normal, on va dire. Ça t'enlève la fatigue, ça t'enlève le manque de sommeil, et ça t'amène à un seuil normal. Après, le stress va encore augmenter une fois que tu seras dans la colonne d'assaut, tu seras à la négociation à quelques mètres du preneur d'otage. Là, le stress va augmenter encore.
Donc, tu arrives sur le lieu.
Voilà, donc on se déplace en voiture, on a des voitures super puissantes. Hein. En général, c'est souvent en voiture parce que c'est l'un des moyens les plus rapides qu'on avait trouvé. Plus vite rapide que l'hélico, à 2h du matin en voiture sur l'autoroute, on peut foncer, ça va super vite. L'hélico est obligé de faire le plein, ça met du temps. Donc on arrive sur les lieux et même en cours de route, déjà je prends contact avec les autorités locales, tout ça pour demander un peu si la situation a évolué. Je me présente, tout ça. Et une fois que j'arrive sur les lieux, eh ben, y a le préfet qui est là, il y a le maire, il y a les familles des otages, puis il y a le preneur d'otages qui est enfermé chez lui dans un bâtiment où il peut. Quand on arrive sur le terrain, le stress commence à s'amplifier parce qu'on voit les familles qui sont mortes de trouille. On voit que le préfet, il y a des fois, il est complètement dépassé, il est même stressé. Il peut même être agressif envers toi parce qu'il ne sait pas gérer cette histoire. Donc il va falloir calmer tout le monde. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait, pour calmer tout le monde, que je prouve à tout le monde, à tous les gens qui étaient présents, aussi bien le preneur d'otages, les otages, le préfet, la famille des otages, que j'étais le meilleur avant même de prononcer un mot. C'est-à-dire que par mon attitude, je devais prouver à tout le monde que j'étais l'homme de la situation. Voilà. Et donc, ça passe justement par cette attitude qu'on a envers les familles, envers le préfet, cette façon de gérer son stress, cette façon de communiquer, et ça rassurait tout le monde. Et à partir de là, on va pouvoir faire baisser la pression. Mais nous, le stress, là, commence à augmenter un peu plus parce que tous ces gens-là nous déchargent le stress sur nous.
Et là, tu réalises l'enjeu par leurs yeux, par leurs peurs.
Exactement. Surtout les familles qui sont là, qui sont terrorisées. Hein. Parce que quand on nous appelle, souvent, il y a eu des morts. Hein. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés. Le preneur d'otages est super déterminé. Et donc, comme il y a eu des morts, les familles des survivants sont encore plus stressées. Et là, ils nous transmettent ce stress, et donc il va falloir le gérer, ce stress. Un jour, on nous appelle pour une prise d'otage. Un voisin a pris en otage son voisin. C'est une famille, et ils sont en fin de compte un couple plus une petite fille de 9 ans, je crois. Et il les a pris en otage. Donc, pareil, on part du GIGN, hein, on va dans cette ville de province. Je prends contact avec le préfet me dit que la situation est stable. Entre temps, des autres voisins ont entendu crier, donc les gendarmes se sont déplacés. Nous, au GIGN, on sait que c'est dangereux, mais un gendarme traditionnel, lui, il ne sait pas, donc il est obligé d'aller sur le terrain, il est obligé de frapper à la porte. Et quand il a frappé à la porte de cette famille, ben, le preneur d'otage a ouvert la porte, il a tué le premier gendarme à bout portant. Le deuxième gendarme s'est sauvé, il lui a mis une balle dans le dos et il a eu le temps de faire 10 mètres, il est mort 10 mètres plus loin. Donc on a deux gendarmes de mort et une famille de pris en otage. Et donc j'arrive sur les lieux comme ça, et déjà je fais un briefing avec le préfet. Commence la négociation et je me mets assez loin quand même. Au début, je me mets assez loin de la maison, hein, parce qu'il y avait les deux gendarmes qui étaient morts. Et ce qui m'avait choqué, c'est que le deuxième gendarme, quand il était mort, son képi avait volé à quelques mètres de lui. Il était à 5-6 mètres de moi, son képi. Et à l'intérieur de son képi, il y avait la photo de sa petite fille. Et là, je me suis dit, mince, sa petite ne sait pas qu'elle a déjà plus de papa. Elle a 8 mois et elle ne sait pas que son père gendarme est décédé. Et déjà, ça, c'est extrêmement dur. Il faut arriver à faire la part des choses, parce que si je pars là-dessus, je peux en vouloir à mon preneur d'otage, avoir des ondes négatives, et puis je peux faire un boulot pas très propre, on va dire, parce que je vais être influencé par ce qu'il vient de faire. Donc il faut arriver à faire la part des choses, je me remets dans la mission. J'ose pas m'avancer parce qu'il y a des fenêtres partout sur cette maison. J'avais son numéro de portable, hein, je l'appelle, il me répond pas. J'essaie de l'appeler à la voix, donc je crie assez fort pour qu'il m'entende. Monsieur Durand, est-ce que vous m'entendez? Et là, je vois les rideaux qui bougent, et je vois que le preneur d'otage est à la fenêtre avec quelque chose dans la main, donc je me plaque au sol, j'ai peur qu'il me tire dessus, hein. J'ai un tireur d'élite qui est du GIGN qui est caché quelque part. Il me dit non, il a un téléphone dans la main, il l'agite. Donc je comprends qu'il veut que je l'appelle par téléphone. Donc là, je le rappelle par téléphone. Et là, la première phrase qu'il me dit, ce preneur d'otage, il me dit arrête de crier comme ça, tu vas réveiller tout le monde. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il vient de faire. Il ne se rend même pas compte qu'il a tué deux gendarmes. Il ne se rend même pas compte qu'il y a un périmètre de sécurité qui est fait autour de lui, que plus personne dort où il habite. Il ne se rend même pas compte des événements. Et là, je me dis mince, ce gars-là doit avoir un problème psychologique. Je continue à négocier avec lui, à créer un lien. Les premières minutes, en fin de compte, tous les négociateurs du monde font la même erreur, c'est qu'ils essayent de sauver des otages. Moi, je ne me suis jamais occupé d'un otage. Pourquoi? Parce que j'avais compris que si je sauvais le preneur d'otages, je sauvais tout le monde. Donc, quand tu te concentres sur les otages, tu crées un manque psychologique au preneur d'otages.
Il est plus important.
Eh oui. Quand tu ne te concentres pas sur quelqu'un, il le sent. Qu'est-ce qu'il fait? En général, il fait des blocages, il fait des barrages, il te contredit, puis il va te tuer un otage. Donc, moi, je faisais l'inverse. Je m'occupais pas des otages, je me concentrais sur mon preneur d'otages. Je lui montrais qu'il était la personne la plus importante pour moi. En lui faisant preuve d'écoute, j'allais jusqu'à sa porte pour écouter les sanglots des otages, pour écouter les crises du preneur d'otages, parce que souvent ils sont en colère, parce qu'ils ont un mal-être. Et ça me permettait vraiment d'avoir cette empathie pour comprendre la situation, me mettre à la place des preneurs d'otages, mais me mettre surtout à la place du preneur d'otages, pour savoir pourquoi il a fait ça. Et je peux t'assurer que dans 90% des cas, si j'avais eu le même parcours que mon preneur d'otages, peut-être j'aurais été capable de faire ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont des parcours de vie très très durs, on leur jette la pierre, mais si on était à leur place, on ne serait pas mieux qu'eux. C'est vrai qu'il y en a qui souffrent énormément et qui décompensent. Donc là, je me rapproche de la maison pour pas crier comme ça, parce que crier, c'est, ça énerve. Donc je me rapproche de la maison, c'est un risque à prendre, hein, parce qu'à tout moment, il est armé, il peut nous tirer, mais on prend ce risque. J'essaie de me mettre contre une façade aveugle, c'est-à-dire une façade sans fenêtre de la maison. Au moins, il peut pas sortir par une fenêtre et me tirer dessus. Et je commence à parler avec lui. Et là, rapidement, je me rends compte, il me le dit pas, mais je me rends compte qu'il a déjà tué le père et la mère.
Comment tu t'en rends compte?
Je lui parle et incertainement, je lui demande, je sais pas quoi, est-ce que tu as besoin de nourriture? Est-ce que tu veux quelque chose? Il me dit, oui, j'aimerais avoir une pizza. Et je lui dis, et les personnes qui sont avec toi? Il me dit, ils n'auront plus jamais faim. Je n'ose pas lui demander s'il les a tués parce que ça peut provoquer des choses, mais à partir de là, je comprends qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'on arrive. Et je demande justement au préfet, il me dit, oui, j'ai entendu deux coups de feu avant que vous arriviez. Donc je suppose que déjà, il y a deux otages qui sont morts. Et j'entends la petite qui pleure derrière. Donc je me dis, tiens, ça doit être les deux parents qui sont morts, et il reste quand même la petite de 8 ans qui est vivante. Je continue à négocier, à parler avec lui pendant une heure, deux heures, et je me concentre sur lui.
Tu lui poses quoi comme question, par exemple?
J'essaie de connaître son parcours de vie. Je m'aperçois qu'il a un parcours de vie extrêmement, extrêmement dur. Hein. Une enfance malheureuse, abandonnée dès sa plus jeune enfance, victime d'un pédophile à l'âge de 8 ans, etc. Et puis il me parle, il me confie. Et là, quand quelqu'un se confie comme ça, tu dis, c'est bon, c'est qu'il a confiance en moi. Pour dire toutes ces choses-là à un inconnu, c'est qu'il y a vraiment une confiance. Et donc, je ne vais jamais trahir sa confiance et je vais continuer à l'écouter, à le faire parler. À un certain moment, il se met en colère sur la petite parce qu'il n'arrive pas à se concentrer
avec
moi. Ouais, il n'arrive pas, il se retourne souvent, il lui crie dessus, ta gueule, il l'insulte. Je sens que ça va mal tourner et il a déjà tué deux gendarmes, il a déjà tué les parents. Je dis, ok, il peut tuer la petite à tout moment. Et je lui dis, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu libères la petite et je viens à sa place. Alors il hésite un peu au début et puis il me dit, et je lui dis, écoute, t'as vu la petite, elle t'énerve, nous on communique, on va pouvoir trouver une solution, moi je viens chez toi, tu libères la petite, je viens chez toi. Et il me dit d'accord.
Tu te dis quoi toi à ce moment-là, enfin, qu'est-ce qui se passe en toi?
Jamais je vais rentrer chez lui. C'est une façon de procéder pour libérer la petite, mais moi si je rentre chez lui, je risque de me retrouver comme les parents ou comme les gendarmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je lui dis un certain moment, bah, écoute, moi j'ai un peu peur, je suis pas loin de ta maison, je suis là, tu m'entends, hein, je suis très près, j'ai un peu peur, est-ce que tu peux jeter ton arme par la fenêtre? Tu sors avec la petite et puis moi je viens. Là il me dit, ok, je vois le fusil qui passe par la fenêtre, mais là, on sait jamais, il a peut-être une deuxième arme, donc il faut quand même se méfier. Je vois la porte qui s'ouvre du rez-de-chaussée, et je vois la petite qui est tenue par les cheveux, il la tient par les cheveux, la petite qui hurle, et il n'y a que son bras qui passe et la petite qui est là. Moi, je suis à 10 mètres de la porte et je lui dis, Monsieur Durand, écoutez, moi, j'aimerais vous voir, hein, je ne suis pas rassuré, est-ce que vous pouvez sortir? Si je dis ça, c'est pour qu'il fasse 2-3 mètres dehors pour que l'équipe d'assaut l'attrape et que je n'ai pas besoin de rentrer chez lui. Et là, effectivement, je le vois, il sort, donc son arme, on l'avait virée. Hein. Et là, je vois, il fait 2-3 mètres, je le vois qu'il sort, il a la petite qui est en train de pleurer, il me dit, avance. Je dis, j'arrive, et là, je vois l'équipe d'assaut qui est de chaque côté de lui, qui se lance contre lui pour l'attraper, parce qu'on les attrape vivants en général, hein. C'est rare qu'on tire sur quelqu'un. Donc l'équipe d'assaut se jette sur lui. Mais ce gars-là, c'était incroyable, il avait une sensibilité incroyable, il sentait tout, et il a senti l'équipe d'assaut arriver. Je ne sais pas comment il a fait pour le sentir, mais il l'a senti. Il jette la petite au sol, il retourne chez lui. L'équipe d'assaut arrive juste derrière, il va pour fermer la porte, l'équipe d'assaut bloque la porte, et je vois l'équipe d'assaut qui rentre dans la maison. C'était dans l'est de la France. L'équipe d'assaut rentre dans la maison, c'est des maisons énormes là-bas. Je vais vite récupérer la petite qui est en pleurs, je la prends dans mes bras, et d'un seul coup, j'entends le preneur d'otages qui crie. Alors en général, ils crient les preneurs d'otages quand l'équipe d'assaut les attrape parce que, on va dire, c'est comme du rugby. Hein. Il y a vraiment une percussion, le gars il tombe par terre, on le menotte, donc c'est le gars il crie de douleur. Mais là, c'est pas des cris de douleur, c'est des cris de haine. Et ça, c'est pas normal. Alors je m'étais fait passer pour un médiateur de la préfecture. On se fait rarement passer pour un négociateur du GIGN parce que ça fait peur. Quand tu dis négociateur GIGN, ils regardent tellement les séries américaines.
Ils attendent quelque chose.
Ah, ils attendent l'équipe d'assaut, l'hélico, le point rouge sur le visage. Donc ça les stresse. Donc on prend, là j'avais pris comme couverture médiateur de la préfecture. Et j'entends un certain moment, je veux parler au médiateur. Je vois que c'est pas normal, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc je donne la petite au pompier et je vais vite dans la maison. Je rentre, il y a un grand salon qui est là. Je me retourne et en face de moi, il y a un demi-étage. C'est un escalier de 5-6, même pas 3-4 marches. Et je vois les jambes de l'équipe d'assaut. Donc je vois tous les jambes de l'équipe d'assaut. Et puis je vois les jambes de mon preneur d'otage qui est à 2 mètres d'eux. Il est debout, personne ne l'a appréhendé. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'avance, et là, plus j'avance, plus je vois les silhouettes. Hein, et je m'aperçois qu'en fin de compte, que rien n'est fini, que tout commence. La vraie négociation commence maintenant parce qu'il avait un pistolet automatique dans le dos. Et quand l'équipe d'assaut a failli l'attraper, quand ils sont rentrés chez lui, ce gars-là, comme je te l'ai dit, il avait une certaine sensibilité. Il s'est dit, si je tire sur l'équipe d'assaut ne va pas s'arrêter, elle va continuer, ils vont m'attraper. Et ça, il le sentait. Et c'est vrai, hein, t'as beau tirer sur une équipe d'assaut, l'équipe d'assaut va foncer. Mais là, il était plus malin, il a pris son arme, il l'a mis sous son menton, il a menacé de se suicider. Et là, l'équipe d'assaut s'est arrêtée. Il savait pas quoi faire. Et donc moi j'arrive et je lui dis, monsieur Durand, je suis là, hein, parce qu'il crie, je veux parler au médiateur. Je regarde l'équipe d'assaut me regarde, je regarde le preneur d'otage et il fait face à la colonne d'assaut et il me regarde à peine. Et il me dit, ok, maintenant t'as 5 minutes pour faire sortir tout le monde, sinon je me fais exploser la tête. 5, 4, 3, et il compte aussi vite que ça.
5 secondes tu veux dire?
Ouais, 5 secondes pardon. Je me dis, est-ce que c'est Natox? Parce qu'arrivé à zéro, il va avoir l'air bête, il va poser son arme et on va l'attraper, ou alors il va se faire exploser la tête. Mais s'il se fait exploser la tête, moi je vais devoir rendre des comptes aussi, parce que je suis négociateur, je suis là pour solutionner les missions. Et à 1, ok, je dis, ok, tout le monde sort. L'équipe d'assaut sort, recule, hein, recule de la cuisine, descend les 4-5 marches.
Toi, t'es armé ou pas?
Moi, j'ai un pistolet automatique dans le dos, ouais. Un petit Glock 21. Ils viennent dans le salon, ils se mettent contre le mur. Donc, ils ne voient plus l'équipe d'assaut, ça permet de
libérer la pression.
Ouais, de moins le stresser, voilà. Il a toujours son arme tellement enfoncée sur son menton qu'on ne voit même pas le canon. Et je lui dis, ça y est, monsieur Durand, tout le monde est sorti. Je lui dis, baissez votre arme. Ce dont j'ai peur à ce moment-là, c'est qu'il me braque et qu'il me tue aussi. Hein. Tue tout de ma gueule, il me dit, je sais qu'ils sont derrière le mur. Il y avait des cadres et la vitre reflétait la visière des casques d'intervention dans les cadres derrière moi. Et là, ben, j'attrape le coup, je dis oui, ils sont sortis de la cuisine, mais c'est vrai, ils sont là. Il dit, t'as pas compris, je veux plus personne chez moi à part toi. Et là, je regarde mon chef de groupe et il me dit, comment tu le sens? Je dis, bien. Ça fait quand même 3 heures que je parle avec lui, hein. J'avais vu qu'il avait une certaine sensibilité. Je dis, ok, monsieur Durand, je veux bien rester avec vous, mais je veux que vous me promettiez une chose, c'est que vous me fassiez pas de mal. Mais il me dit, pourquoi tu veux que je te fasse du mal à toi? T'es là pour m'aider, je te ferai jamais de mal. Et mon chef de groupe me regarde et me dit, ok, on te laisse. L'équipe d'assaut sort de la maison et c'est un grand moment de solitude parce que je suis devant lui et il n'y a plus personne, il n'y a que lui et moi. L'équipe d'assaut s'en va, la porte se referme et là il me dit va sur le canapé. Donc je vais sur le canapé. La première chose qu'il fait, c'est qu'il ferme la porte d'entrée à double tour. Prisonnier chez lui. Bon, je regarde et il laisse la clé quand même sur la porte, mais c'est quand même moins rassurant, on va dire.
Intérieurement, à ce moment-là, t'es calme ou il y a toujours l'adrénaline?
C'est assez étrange comme sensation parce que t'es plus avec ton groupe. Le groupe peut plus t'aider. Ils sont là, hein, ils peuvent intervenir
Mais ça peut aller vite, en fait.
Ouais, mais là, il a plus qu'à appuyer sur la détente, lui. Donc, c'est quelques secondes. Mais le groupe peut vite intervenir, mais jamais assez vite pour te sauver la vie. Faut pas trop y réfléchir parce que c'est là où tu commences à stresser. Et il faut se concentrer sur son objectif. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de sauver ce preneur d'otage. Je me le répète pour pas perdre cet objectif et puis surtout pour pas être envahi par la peur.
C'est-à-dire, tu te dis quoi, par exemple?
Eh ben, que je vais le ramener à la raison. J'ai réussi à ce qu'il libère cette petite, hein. Il allait la libérer, cette petite. J'ai réussi à faire ça. Bon, il y a eu un grain de sable dans l'engrenage, on n'a pas pu l'attraper comme on voulait. Mais si j'ai réussi à faire libérer cette petite, je vais arriver encore à le faire prendre conscience qu'il peut, pour le bien de tout le monde, se rendre. Et je me concentre là-dessus. Il s'assoit sur un fauteuil qui est à 2-3 mètres devant moi. On commence à parler. On parle de tout et de rien. Et j'essaie de le mettre à l'aise. Hein. Je me concentre sur lui. Je ne le juge pas. Je maîtrise mes émotions parce que je ne veux pas qu'il voit que j'ai peur. Je ne veux pas me mettre en colère non plus. Parce que toutes ces émotions sont contagieuses. S'il voit que j'ai un changement d'attitude, eh ben lui peut changer d'attitude. Donc j'essaye de rester le plus serein possible et puis de me concentrer sur lui. La première synchronisation, c'est dans les yeux. Donc je le regarde dans les yeux et j'essaie de me synchroniser avec lui par le regard. J'ai employé à peu près ces mêmes gestes aussi. C'est-à-dire que je vais me synchroniser physiquement avec lui. Et ça rassure énormément les personnes. Par exemple, là, toi, on est tous les deux assis, les mains sur la table. Si tu étais plus en arrière, ben, je me serais peut-être tenu plus en arrière également. C'est une synchronisation et ça marche. Hein, ça marche parce que les gens se reconnaissent dans ton comportement et ça les rassure énormément. Donc, j'ai à peu près la même posture que lui. Et à un certain moment, il croise une jambe, je croise une jambe et je continue à parler avec lui.
Combien de temps entre le moment où il croise les jambes et le moment où toi, tu vas le faire?
Je ne le fais pas directement, sinon la personne va le voir. J'attends bien, je sais pas moi, 10-15 secondes. Mais ça, c'est à toi de le ressentir. Tu le sens à un certain moment où tu peux le faire naturellement. Donc, je croise les jambes. Et à un certain moment, il sort un gobelet en plastique sous la table basse et il se sert du vin. Je dis, mince, il y a l'alcool en plus, une arme à feu, c'est pas bon. Mais pour me synchroniser avec lui, je lui dis la même chose. Je lui dis, écoute, moi j'aime bien le vin, est-ce que je peux avoir aussi un verre de vin? Il me sort un gobelet sous la table, il me jette un gobelet en plastique, je prends son gobelet. C'est son gobelet de la veille, il a encore du vin rouge tout cramé au fond, tu sais. C'est pas grave, il faut se sacrifier des fois. Je prends la bouteille, je me verse un verre de vin. Et quand il boit, qu'est-ce que je fais? Je bois. Tu peux remarquer, si un jour tu sors avec des amis dans un bar, on est 4-5 amis, on a tous notre verre. Si tu bois un coup, dans la foulée, il y en a bien au moins un ou deux, par imitation, qui vont boire leur verre aussi en même temps que toi, ou presque en même temps que toi. Ça s'appelle la synchronisation. Donc là, il boit, j'attends un peu, 2-3 secondes, et je bois.
Tu bois le verre en entier?
Non, je bois même pas. Je trempe mes lèvres à l'intérieur, et puis voilà. À un certain moment, il sort même des cacahuètes. Il se sent tellement à l'aise. Et ça me rassure du côté là, le côté apérodinatoire, on va dire, malgré la situation lugubre. Hein. Il n'a pas conscience de ce qu'il vient de faire, mais que j'ai réussi à le rassurer pour qu'il a accepte de boire un verre, de partager un repas avec moi. C'est des cacahuètes, c'est pas grand-chose. Hein. Il pose des cacahuètes, il mange des cacahuètes. On serait cru, entre guillemets, à un apéro dînatoire s'il n'y avait pas les deux cadavres derrière. Parce qu'il y a encore les deux cadavres des parents qui sont juste derrière lui. Hein. On voit, je vois les pieds derrière. J'essaie de pas les regarder, justement, de me concentrer sur lui. Et de ne pas lui en parler, d'ailleurs. Et pareil, ben là, je mange une cacahuète pour lui montrer que je suis comme lui, que j'adore le vin, que j'adore les cacahuètes, qu'on se ressemble. À un certain moment, il est tellement à l'aise que son arme, il la tient même plus, il la tient sur ses jambes, il menace plus sa vie.
Ni sa vie, ni la tienne.
Il ne l'a jamais menacé, la mienne, hein, pour l'instant. Hein. Il a toujours menacé sa vie. Et ça, il ne la menace plus, et là, je me dis, c'est cool. C'est cool parce qu'on a fait un gros progrès, déjà. Il est tellement à l'aise qu'il ne pense plus, justement, à mettre sa vie en jeu pour rester vivant, en fin de compte. Je dis, tiens, je vais voir s'il est synchronisé avec moi. Je décroise les jambes, et puis allez, dans la foulée, une, deux secondes après, bam, il décroise ses jambes. Ah, j'y tiens, il y a comme une synchronisation.
Ça, c'est quelque chose que vous faites souvent,
ouais.
de tester cette synchronisation.
Tout à fait, oui. Pour voir si on est sur la même longueur d'onde, en fin de compte.
Tu vas tester par du physique à chaque fois ou tu vas tester par un changement de voix ou c'est souvent physiquement que tu testes?
Alors, c'est le plus souvent physiquement parce que c'est inconscient. Les intonations, c'est inconscient aussi, hein, mais il faut faire attention avec les intonations parce que ça peut être mal interprété. Il reconnaît inconsciemment ses gestes, oui. Je prends mon verre, je bois, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il prend son gobelet, il boit aussi. Ça s'est inversé, j'ai l'emprise sur lui.
C'est toi qui lead, quoi, comme une danse.
Ouais, c'est moi qui... Ouais.
Là, tu es dans une situation où il y a beaucoup d'incertitudes dans comment ça se passe, comment ça va se passer. Quand tu dis, voilà, j'ai mon objectif, je reste en tête avec mon objectif, je veux le sauver quelque part. Est-ce que tu as une idée de comment tu vas t'en sortir? Comment t'es, en fait?
Il faut savoir que le JGN est renommé pour son improvisation. Attention, c'est pas tiens, j'improvise, non. L'improvisation, c'est un schéma tactique à l'assemblement répété à l'entraînement. On a des entraînements extrêmement durs, justement, pour rencontrer n'importe quelle circonstance qu'on va rencontrer.
Vous avez testé plein de scénarios d'entraînement, ce qui fait que tu peux piocher inconsciemment sur un et dire, ok, on prend lui.
Même si ça, c'est pas la même situation, il y a toujours quelque chose qui se ressemble. À force d'entraînement, ça devient l'improvisation. Tu sais même pas pourquoi tu fais ça, mais parce que, avec du recul, ah bah oui, à l'entraînement, je l'ai déjà fait. À l'entraînement, je l'avais déjà vu. À l'entraînement, on avait vu une situation à peu près similaire. Et donc, ça te permet de réagir spontanément. Et on voit pas que c'est quelque chose que tu as travaillé, parce que ça a l'air spontané, ça a l'air naturel, oui. On le fait réellement souvent.
Et là, à ce moment-là, t'as un scénario en tête à ce moment-là?
Ben oui, en fin de compte, quand il est synchronisé sur moi, avec moi, quand je décroise les jambes et qu'il décroise les jambes, je reteste une deuxième fois avec mon verre pour voir s'il est réellement synchronisé. Et effectivement, il est réellement synchronisé parce qu'il boit aussi en même temps que moi. Là, je vais me lever. Par mimétisme, il va se lever. Je vais aller à la porte. Il va me raccompagner comme deux amis qui ont terminé leur apéritif. Et il me raccompagne à l'extérieur. Une fois arrivé à l'extérieur, s'il se rapproche de moi, une fois que la porte est ouverte, je lui saisis l'arme et l'équipe d'assaut, dans la fraction de seconde, elle va être là et ils vont pouvoir l'appréhender. Je me lève, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Je dis, ok, là c'est super, je vais aller vers la porte et c'est gagné, il va arriver, il va l'ouvrir.
Et tu lui parles pendant que tu marches?
Bien sûr, je lui parle. Je marche pas encore, hein. Je veux pas qu'il pense que j'essaye de me sauver. Voilà. Donc je me lève, je continue à parler.
Oui, c'est avec deux amis, vous êtes en train de discuter, exactement. Tu vas à la cuisine, ouais. Et tu vas quelque part.
Ouais. Tu peux remarquer, quand t'es chez des amis, tu parles jamais, tu te lèves et tu t'en vas. Non, tu
ouais, te lèves, vous discutez.
Ouais, on discute, il y a des moments où on se dit déjà peut-être on s'embrasse et puis on reste encore 5 minutes, là j'y vais maintenant. Je veux que ça soit, voilà, que ça soit naturel. Donc je me lève, je continue à parler avec lui, mais malheureusement, je m'aperçois que quand je me suis levé, j'ai ma veste qui est passée par-dessus mon pistolet automatique. Et là, quand je vais me tourner pour aller à la porte, il va le voir, mon pistolet automatique. Et là, ça va dégénérer. J'essaye de trouver un stratagème pour me dire comment je vais faire.
Il l'a vu, on est bien d'accord.
Moi, je l'ai senti. Je le vois pas, hein, parce que c'est dans mon dos. Moi, je l'ai senti. Lui, il peut pas le voir parce qu'il est en face de moi. Mais je me dis comment je vais faire pour rabaisser ma veste sans qu'il le voie.
Ah ok, donc il l'a pas encore vu. Toi, tu lui dis ok, si je continue de bouger, il va le voir.
Il va le voir. Tout en lui parlant, et j'essaye de trouver une technique. Et j'y tiens, je vais faire semblant que j'ai des miettes de cacahuètes sur ma chemise, et puis je rabaisse ma veste. Mais comme je te l'ai dit, ce gars-là, il avait une certaine sensibilité. On communique avec nos sens, hein, nos sensations. Il était incroyable. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai coupé la synchronisation avec lui et je me suis concentré sur mon arme. Donc, j'ai dû changer d'attitude.
Oui, ça s'est vu dans ton non-verbal quelque part.
Ouais, exactement, oui. Souvent, ce que je dis aux commerciaux ou même aux dirigeants, j'ai fait attention, c'est pas parce que la personne a dit oui.
Que c'est fini.
Voilà. C'est à partir de là où on va dire qu'il faut vraiment encore plus l'intégrer dans l'équipe, cette personne. Et c'est là où j'ai péché, parce que je me suis concentré. Je me suis dit, comment je peux faire pour abaisser ma veste sans qu'il le voie? J'ai dû changer d'attitude et il l'a vu tout de suite. Là, ça a été le moment le plus dur de ma vie, parce que son arme, il la tenait baissée, hein, le long de son bras. Il ne s'est jamais approché de moi, il était à 2 mètres de moi. Et là, il met son arme en direction de ma tête et il me dit, tourne-toi. Et là, c'est un moment de solitude. Et dans mes yeux, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'essaie de lui parler, j'essaie de ne pas me tourner et je dis, ça va l'énerver. Je cherche pas à comprendre, je me tourne, il me dit lève ta veste, je lève ma veste, et il voit mon pistolet automatique, et là il me dit t'es un salaud, tu m'as menti, t'es un flic, je vais te buter. Je me retourne, je lui fais face. On a des techniques pour désarmer quelqu'un, mais il faut que l'arme te touche. Si la personne est à 2 mètres de toi, tu peux rien faire. C'est impossible.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le contact.
Contact, ouais. Même derrière toi, s'il te touche, il est foutu. Mais s'il te touche pas, s'il est à 2 mètres, c'est impossible de. Dès que tu fais un geste, il va appuyer. Donc lui, il a qu'à faire ça. J'ai envie de saisir mon arme. On tire à peu près 1000, 2000 cartouches par mois au GIGN. Donc on est très rapide. Où on pense, la balle, elle va, hein, c'est impressionnant. Mais le temps que je prenne mon arme, que je fasse ça, même si je suis très rapide, lui, il a qu'à faire ça. Donc je sais que je suis foutu. J'essaye de m'en sortir et là, je fais une deuxième erreur. Ma première erreur, c'était de me concentrer sur mon arme, hein, essayer de cacher ça. Ma deuxième erreur, c'est d'essayer de faire en sorte que les tireurs d'élite le maîtrisent. Je me dis, quand on a peur, on recule. Et j'ai peur à ce moment-là. Donc je recule et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il avance forcément. Et je le laisse avancer, moi je recule, jusqu'à temps que lui soit face à la fenêtre. Parce que...
Là, il peut se faire tirer dessus.
Voilà. Et quand il est face à la fenêtre, je m'arrête et lui, il s'arrête. Toujours me menaçant, donne-moi ton arme, il me hurle dessus. Et là, les secondes sont extrêmement longues. Quand tu as une arme en pleine face, hein, j'attends une seconde, deux secondes, trois secondes, j'ai l'impression que c'est des heures. Il n'y a aucun tir qui est effectué. J'aurais aimé que les tireurs d'élite lui tirent une balle dans la main, tu vois. Avec une main en moins, j'aurais pu l'arrêter facilement. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas allumé la lumière et l'appartement était trop sombre.
Il est quelle heure à ce moment-là?
On était le matin, mais il faisait trop sombre. Et en plus, il y avait des rideaux. Et les tireurs d'élite ne voyaient pas à travers la fenêtre. Donc s'ils tirent et qu'ils le loupent, là c'est terminé pour moi, le mec va me tuer. Donc les tireurs d'élite ne tirent pas. Ils prennent leurs précautions, ils ne tirent pas. Et là je me dis, ça y est, je suis foutu, je recule jusqu'à la porte. J'arrive à la porte et je vois les clés sur la porte. J'ai envie de sauter sur ces clés, faire un double tour puis me sauver. Mais si je suis pris de panique et je fais ça, il va me mettre une balle dans le dos, c'est certain. Il a tué deux parents, il a tué les gendarmes. Il va me tuer aussi, c'est certain. Je ne sais pas pourquoi. À un certain moment, je lui dis, je peux pas vous faire confiance. Et il me dit, pourquoi tu me dis ça? Et je lui dis, je suis resté ici pour vous aider. Vous m'aviez promis que vous ne me feriez jamais de mal. Et il me dit, oui, je te l'ai promis. Et je lui dis, alors pourquoi vous me menacez? Et j'ai de la chance parce qu'il reste un peu d'humanité en lui. Il reste un peu d'empathie en lui. Et j'arrive à toucher cette corde sensible. C'est pas grand chose, hein, c'est un mot qui m'a sauvé. Je peux pas vous faire confiance, je lui ai dit. Et tout de suite, il a remis son arme sur son menton. Là, je lui ai dit, écoutez, je me sens vraiment mal, j'ai besoin d'un verre d'eau. Il est parti me chercher un verre d'eau. En fin de compte, tout le travail que j'avais fait en amont, au téléphone avec lui, chez lui, sur le canapé, sans le juger, à essayer de le comprendre, à comprendre son parcours de vie, m'a servi énormément pour sortir de cette affaire vivant. Il est parti, et là, je n'ai pas joué au héros, j'ai ouvert la porte à double tour, l'équipe d'assaut qui était à la porte sont rentrés. Quand il arrive avec son verre d'eau, ils l'ont poussé, il est tombé, ils lui ont saisi l'arme, et c'était fini. Donc, il ne fallait pas grand-chose, mais je suis persuadé que si je n'avais pas fait preuve d'autant d'empathie pendant des heures avec lui, sans le juger sur ce qu'il avait fait, je serais mort aujourd'hui, c'est certain. Ouais.
Au moment là où t'es sorti, tu te sens comment là?
T'apprécies la vie parce que tu t'es dit « Waouh, j'ai eu chaud là ». Nos missions sont très risquées, hein. Tu comprends, au GIGN, quand on nous appelle, c'est souvent très risqué. Mais on le vit en groupe, donc ça va. Mais là, j'étais tout seul. Et ça a été un moment extrêmement dur pour moi. Ouais. Et quand je suis sorti, c'est heureux d'être vivant. Et puis, à un certain moment aussi, un peu la peur au ventre en se disant « Mince, j'ai eu chaud, vraiment ».
T'as eu du mal à faire d'autres missions derrière?
Non, ça s'est super bien passé parce que, encore une fois, je retombe dans un groupe. C'est très rare quand ça se passe comme ça, une mission. Une fois que tu es dans le groupe, après, tout se passe bien. Ouais.
Comment tu fais pour gérer ton stress et comment tu fais pour gérer le leur en même temps?
Il y a des choses à faire avant, pendant et après. Avant, il faut savoir que si tu fumes, tu bois, tu fais pas de sport, tu te drogues, tu dors peu, tu vas être beaucoup plus sujet au stress que, par exemple, moi, qui fais du sport, qui dors, qui fais attention à ce que je mange, que je ne bois très peu d'alcool, excepté le week-end, et je dors relativement bien. Donc à partir de là, déjà, je suis plus fort que quelqu'un qui ne fait pas ça. Donc déjà, c'est cette partie avant. Après, pendant, ben, nous, il y a cette habitude, hein, l'habitude de faire des choses. À l'entraînement, on s'entraînait énormément en situation de stress, justement, pour pouvoir improviser dans les situations réelles.
Ça veut dire quoi, on s'entraînait en situation de stress?
On faisait des prises d'otages fictives avec quelqu'un du GIGN qui jouait le preneur d'otages, qui nous tirait dessus à balles réelles, qui avait des otages aussi, hein, qui criait, qui nous mettait la pression. Il n'y a pas autant de stress qu'une vraie mission, mais ça te fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc c'est cette habitude, cet entraînement nous permet d'être moins stressés en mission.
Des simulations comme ça, t'en as tous les combien de temps?
Tous les jours, on s'entraîne.
À la fin de cette simulation, tu parles d'entraînement, ça se passe comment le débrief? Parce que tu peux pratiquer un sport pendant 20 ans et pas vraiment progresser. J'imagine que dans chaque simulation, il y a des endroits où tu as été très bon, d'autres un peu moins bon, et il y a des trucs à apprendre. Comment vous y prenez pour apprendre de chaque simulation?
Alors déjà, on a un mode de recrutement qui est extrêmement dur pour entrer au GIGN. On a 14 mois de sélection. Pour te donner un exemple, nous on était 100 candidats. Au bout de 14 mois, on a terminé à 5. Donc, il n'y a que 5 sur 100 qui ont été pris. Ces 5 personnes qui ont réussi ces 14 mois ont des aptitudes psychologiques plus que physiques. Hein. Notre façon de s'adapter, notre façon de pouvoir improviser, et c'est ce qu'on recherche au GIGN. On recherche pas des montagnes de muscles, hein. Tu m'as vu, je suis pas quelqu'un de terrifiant, mais on recherche des gens qui sont forts psychologiquement. C'est-à-dire que des gens qui savent s'adapter et trouver des solutions par rapport à des problématiques qu'on leur met au quotidien. Donc on a déjà, on va dire, un processus en nous qui nous permet de s'adapter peut-être plus vite que les autres. Mais encore une fois, c'est cet entraînement qui va développer cette aptitude d'adaptation.
Une fois que la simulation elle est finie, vous avez un protocole, vous débriefez.
À l'entraînement, on fait un débriefing. En mission, on fait deux débriefings. On va faire un débriefing sur sur la mission pure, technique, tactique, parce qu'on peut toujours progresser. Même si on a 100% de réussite, on aurait pu encore faire mieux.
Donc vous en faites un même quand ça marchait.
Même quand ça marche, parce qu'il y a toujours des choses à dire. On peut toujours faire mieux. Et puis après, on fait un débriefing émotionnel. C'est-à-dire qu'on va dire ce qu'on a vécu. Oui, quand j'ai vu le cadavre de ce gosse, ça m'a fait mal. Et puis je m'aperçois que mes copains aussi ont eu mal. Je ne suis pas le seul à avoir eu mal. Et ça fait du bien de partager ces émotions parce que ça permet de repartir sur une autre mission et se vider ce sac émotionnel qu'on a en nous. Mmh. Et si on le fait pas, et ben ce sac se remplit, et puis on peut à un certain moment être plus fragile. Donc le fait de dire nos peurs, nos craintes, de le dire sans crainte d'être jugé par les autres membres du groupe, et puis les autres membres du groupe se confient aussi, ça permet à nous justement d'évacuer puis de voir qu'on n'est pas le seul à avoir eu des appréhensions, à avoir été choqué par certaines scènes, et ça permet de repartir sur de bonnes bases.
En plus de partager, on vous donne des outils pour mieux gérer émotionnellement telle ou telle situation.
Le négociateur, justement, est formé à la négociation. Il a une formation de 2 ans à la négociation, mais en plus, il a une formation à la sophrologie. En fin de compte, le négociateur joue le rôle, pas de psychologue parce que c'est un bien grand mot, mais d'incitateur à la parole dans le groupe. Donc, il va se confier le premier et ça va permettre aux autres de se dire si lui, il a peur, moi, je peux le dire aussi, que ça m'a choqué et tout ça. Donc, le négociateur a une triple casquette. Il peut être dans la colonne d'assaut. Il est négociateur et puis aussi après pour faire ce débriefing émotionnel.
Ok, donc en faisant preuve d'humilité, en disant voilà, moi j'ai mal vécu ce truc-là, du coup tu permets au reste du groupe de se dire ok, on est sécurisé et on peut parler, on peut s'exprimer.
Faire preuve d'humilité, t'as raison, hein, c'est la base de tout. Même avec un preneur d'otage, hein, si on ne fait pas preuve d'humilité, on bloque tout le monde.
Je vais vous faire une confidence. Tout le monde est capable de négocier, il suffit de le vouloir réellement et d'oser.
Je m'appelle Édouard Beltrame.
Je m'appelle Bernard Tellier.
Depuis une vingtaine d'années, ma vie est consacrée à la négociation.
J'étais pendant 10 ans le négociateur du GIGN.
La vie est faite de négociations. On négocie tout le temps.
La négociation, ça se travaille. C'est comme le sport, hein. On ne peut pas faire un marathon du jour au lendemain.
Le bon négociateur devient par la pratique et surtout par l'apprentissage. D'où l'importance de se former et se préparer pour nos négociations quotidiennes.
Si t'en as assez de te faire manipuler, si t'en as assez de passer à côté de bonnes occasions, si t'as réellement envie de progresser,
clique sur le lien pour avoir accès à plus d'informations sur ce programme qui peut changer ta vie et tes négociations.
Si on revient sur les deux, entre guillemets, erreurs ou choix en tout cas qui se sont pas passés comme tu voulais, est-ce qu'avec du recul, tu dirais tiens, il y avait une autre manière de faire ? Que j'ai compris, en gros, je me suis focalisé sur mon arme plutôt que lui. J'essayais d'imaginer comment on peut transposer ça, par exemple, à un commercial ou à un entrepreneur qui est en discussion avec son client, ça se passe super bien. Les meilleurs commerciaux, ils arrivent presque à oublier l'objectif de vendre et t'intéresser tellement à la personne. Mais je trouve que c'est beau ce que tu dis quand tu dis, ben voilà, si j'avais eu la même enfance, la même histoire, ben ça se trouve, j'en serais au même stade. Et ça crée chez toi beaucoup d'empathie. Tu sors de juste, c'est quelqu'un de mal et moi, j'ai la raison, pas lui. Et en fait, tu peux pas créer de relation quand t'es là-dedans. Tu formes aujourd'hui des commerciaux ou des entrepreneurs. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé pour toi dans la vie de tous les jours, si on est entrepreneur, si on est en discussion, en négociation, parce que la négociation, en fait, on la vit tous, dans notre couple.
Tout le temps. On est tout le temps, même avec les enfants. Hein. Ils sont très forts d'ailleurs. Hein. Je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand la personne est d'accord, c'est qu'on relâche. On se relâche complètement. Parce que ça y est, on a atteint notre objectif. Alors que c'est pas vrai, on l'a pas atteint cet objectif. Il a donné simplement son accord. Et à partir de là, il va falloir même en faire encore plus, c'est-à-dire que sur un preneur d'otage, il va falloir encore plus le rassurer. Je donne un autre exemple, sur une autre prise d'otage, c'est un forcené. Un forcené n'a pas d'otage. Un preneur d'otage a toujours des otages, un forcené n'a pas d'otage. Il est tout seul chez lui, ce forcené-là, il avait tué 5-6 personnes dans la rue, il était en fin de compte, il était chez lui au 3e étage, il tirait sur tout le monde dans la rue. Donc j'ai négocié avec lui pendant 8-9 heures, et au bout de 8-9 heures, il me dit, j'arrive à le ramener à la raison, et il me dit ok, je me range, je sors. Et là, super content, je l'avais par téléphone, j'étais dans son hall d'escalier. Comme ça résonnait énormément, on n'arrivait pas, la voix, il n'arrivait pas à l'entendre. Donc je lui dis, écoute, je t'appelle par téléphone. Il me dit, ok, je sors. Et là, super content, je raccroche. Il n'est jamais ressorti. Jamais ressorti, pourquoi? Parce que j'aurais dû l'accompagner, j'aurais dû lui expliquer. Ok, tu vas sortir, tu vas ouvrir la porte, tu vas me voir, je serai là, tu verras certainement des gens, des gendarmes, tout ça, ils te toucheront pas, je serai là pour
l'accompagner
jusqu'au bout. Voilà.
Et ça, effectivement, on peut le transposer dans la vente.
Et là, si un commercial n'appelle plus son client, il a dit oui, allez, je rentre chez moi, je vois un autre client et je l'oublie, s'il n'est pas là pour le rappeler, pour le rassurer, pour au quotidien lui montrer que ce n'est pas parce qu'il a dit oui qu'il s'en occupe plus, non, c'est au contraire, c'est parce qu'il lui dit oui qu'il devient encore plus important, le client va se sentir rassuré. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est rassurer continuellement son preneur d'otage ou son client. Si tu n'es pas capable de le rassurer après qu'il a accepté, eh ben, un preneur d'otage peut se rétracter comme un client.
Comme tu l'as dit, la première priorité que tu as, toi, en tant que négociateur, c'est créer la relation. Et donc, l'empathie, comprendre son monde, comprendre son univers. Je vois des personnes qui sont très bonnes pour cette phase-là, mais en fait, ça, elles vont rester à la relation et ont du mal à faire cette transition de la relation qui est plus une énergie, entre guillemets, féminine, à une posture de, bah voilà, on va se lever ensemble, on va aller jusqu'à la porte. Tu as dit, à un moment donné, je ne sais plus quel terme tu as employé, mais cette notion où tu es passé quelque part d'écoute à, maintenant, c'est moi qui prends le lead. C'est quoi la bonne manière de s'y prendre pour basculer de « Ok, je t'ai vraiment compris, ah maintenant on va aller vers ranger sa chambre ou le produit ?»
Ça s'appelle la conclusion en fin de compte.
Comment on conclut ?
C'est beaucoup de gens ont du mal à faire cette transition dans la conclusion. Ils sont dans la relation et comme tu dis, ils restent dans la relation et ils ont peur de passer à la conclusion. Parce qu'ils ont peut-être peur d'être démasqués en se disant « Mince, si je vais à la conclusion, bah, il sait que je suis là pour le produit et pas pour lui. » S'ils ont peur, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est qu'ils n'ont peut-être pas confiance en leurs produits, ils n'ont peut-être pas travaillé assez bien sur leurs produits et sur leur argumentation en fin de compte. Si tu es clair, si tu as confiance en toi, si tu as confiance en tes propos ou aux produits que tu désires vendre, la conclusion va se faire automatiquement. Si tu es convaincu de ce que tu dis, si tu es convaincu de ton produit, tu seras convaincant, il n'y a aucun problème. C'est là où tu as un doute que tu vas avoir du mal à sortir justement de cette relation justement pour passer à la conclusion.
Et t'as des astuces ou pas qui peuvent aider à basculer justement de cette dynamique relation à cette dynamique de conclusion?
Mais déjà, dans la vie de tous les jours, il faut s'entraîner. Par exemple, j'ai des amis qui sont très bavards et t'arrives pas à couper leurs paroles. Ils sont là, t'es pressé. Ah oui, et puis ils parlent.
Jusqu'à devant la porte.
Ah ouais, ouais, ils t'arrivent pas, t'es en train d'apprendre, il est là. Mais à un certain moment, ben, entraîne-toi avec eux. Que tu arrives à couper la communication avec lui sans qu'il soit vexé. Donc, il faut oser dire les choses. Tu peux lui dire, écoute, je suis désolé, j'ai un train à prendre. C'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on peut reprendre la conversation après? Et si tu n'es pas capable de faire ça avec ton voisin, ben comment veux-tu que tu fasses ça dans la vente? Tu as tellement d'endroits où tu peux t'entraîner qu'il faut s'entraîner dans la vie de tous les jours. Ouais. Avec tes enfants, avec tout le monde. Ouais.
Je pense qu'il y a deux problèmes que les gens vivent. Comment je m'y prends pour faire la transition? Et peut-être qu'il y en a une qui est en amont. Parce que tu vois, là, tu parles de négociations qui durent plusieurs heures. Tu es sur le canapé avec lui, tu as un verre à la main, tu as des cacahuètes. Au-delà même de comment je fais la transition, c'est quoi les indicateurs pour se dire « Allez, là, c'est bon, là, il s'agit de conclure maintenant. »
Alors souvent, c'est toute la communication non-verbale, c'est-à-dire sa posture, son attitude. Tu vas voir un peu qu'il se relâche, qu'il est intéressé par ce que tu dis. Peut-être au début, il a une posture de retrait avec les bras croisés. Plus ça va, plus il libère ses bras, plus il a la même posture que toi, plus il se penche vers toi pour t'écouter, plus tu l'intéresses, voilà. Et tu le vois quand t'intéresses quelqu'un. Et à partir de là, une fois qu'il est intéressé, ok, tu vas pouvoir conclure. Mais tant que tu vois qu'il n'est pas intéressé, qu'il est toujours en situation de retrait, on appelle ça des gestes par choc, hein, pour se protéger, ça sert à rien d'aller à la conclusion, tu n'y arriveras pas.
On parlait de synchronisation. T'as quelqu'un qui est comme ça devant toi? Tu te synchronises comment?
C'est pas forcément négatif, hein, un geste par choc. Hein. C'est une position d'attente. Il attend, il sait pas. Il est indécis, il attend. Est-ce que je le suis ou est-ce que je me ferme? Donc à partir de là, eh ben, il faut se concentrer sur lui, ne pas faire l'erreur d'aller. Il y en a qui ont tendance à vite passer à la conclusion pour puis partir, tu vois, mais ça marchera pas. Il va falloir le rassurer. Donc quand il est comme ça, peut-être se mettre un peu en arrière pour lui montrer que ben, toi aussi, t'attends quelque chose de lui, t'attends une ouverture.
On est d'accord,
lui.
Tu vas pas croiser tes bras, toi.
Non, j'attends un peu. Parce que c'est un geste par choc, donc lui il peut l'interpréter pourquoi je me protège de lui. Donc je croise pas mes doigts, mais je peux me mettre un peu en retrait.
Donc t'es ouvert finalement dans le corps, oui. Mais physiquement t'es en retrait.
Voilà.
En
face
gros,
à lui. Ouais.
Tu vas pas être dans une posture en avant qui pourrait dans l'énergie être.
Tout à fait, parce que ça va
être une attaque, quoi.
Bien sûr, parce que ça va pas te synchroniser avec lui. Lui il est en retrait, il attend, il se méfie un peu. Si toi t'avances, il va peut-être encore plus se fermer. Donc tu le laisses, tu le laisses. Il veut un peu plus de champ, tu lui laisses son champ. Tu te mets en arrière un peu. Et puis t'attends, t'as tes gestes ouverts, hein. Tu t'occupes de lui, tu t'occupes de son état psychologique, tu lui montres qu'il est important pour toi, et puis tu parles de tout et de rien. Si tu vois qu'il y a un changement d'attitude, positif ou négatif, ben là, tu qui en profitent pour changer.
T'as une école qui dit, voilà, pour créer de la relation, c'est important de savoir sourire, d'être accueillant dans l'énergie. Et t'as une autre école qui va dire, bah, en fait, si t'es trop en train de sourire, tu vas pas avoir de lead dans la relation. Et on connaît tous un ami qui, justement, même les filles vont dire, bah, lui, il est gentil. Donc, sous-entendu, en fait, je suis pas du tout intéressé, pas du tout attiré. Et de l'autre côté, on connaît tous aussi des personnes, ou en tout cas, on a vu des personnes qui vont pas du tout sourire et qui ont un vrai charisme et embarquer des gens avec eux. On en connaît aussi des Will Smith, par exemple, très accueillants et qui ont aussi un vrai leadership. Comment on se positionne un petit peu dans ces deux formes de charisme, ces deux manières d'interagir avec l'autre?
Je pense que sourire, c'est bien. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui envoies un sourire. Un bonjour, un sourire, c'est important. S'il ne te répond pas, en général, c'est assez communicatif. Hein. Tu souris à quelqu'un, la personne te sourit. Toi, là, tu viens d'avoir un petit rictus parce que j'ai souri. Si la personne ne répond pas, il faut savoir pourquoi elle ne répond pas. Est-ce qu'il dit non à ton produit? Est-ce qu'il dit non à toi, à ta personnalité? Est-ce qu'il dit non parce qu'il est dans un environnement qui n'est pas bien? Il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'il a. Si c'est envers toi, là, ça va être difficile. Il va falloir essayer de jouer avec ton attitude pour le rassurer. Si tu vois qu'il ne sourit pas, ben, ça ne sert à rien de sourire parce qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui sourit quand tu n'as pas envie de sourire. Souvent aussi, on me dit quand quelqu'un est énervé, il faut parler calmement.
Ouais.
Pas forcément vrai, parce que imagine si moi je suis énervé et puis d'un seul coup tu me parles comme ça, ben ça va m'énerver encore plus. Et la synchronisation, c'est ça, c'est parler un peu plus rapidement. La personne était excitée, elle est énervée, ben nous on va parler un peu plus rapidement pour être synchronisé avec lui. Donc si elle ne sourit pas, t'as fait un sourire, elle ne sourit pas, ça sert à rien de vouloir faire trop de sourires parce que ça va l'énerver. Donc se baser sur lui. Et puis à un certain moment, tu vas voir, il va se décontracter, il va aller un peu mieux. Puis il y a des gens qui ne sont pas souriants, hein, il faut l'accepter. Et donc ils ont d'autres qualités, mais ils ne sont pas souriants. Donc essayer de trouver ce qui va le toucher, oui. Est-ce que c'est dans ton attitude? Est-ce que c'est dans tes propos qu'il va être rassuré? Et à partir de là, mais il faut arriver à trouver et puis enfoncer le clou sur ce côté qu'il aime.
Dans une vidéo, tu disais que les négociateurs, ils étaient choisis sur la partie sensibilité.
Oui.
Comment ça s'utilise? Comment ça s'exprime, ouais, cette sensibilité? Parce que ça paraît dans plein de gens, je pense, dans la tête de plein de gens, GIGN et sensibilité, de base, je pense pas que ça soit les deux mots que les gens associent.
Alors, tu serais très surpris si tu venais au GIGN. Moi, j'amène du monde de temps en temps, et la dernière fois, il y a des gens qui me disent, on entend de la musique, c'est quoi? Bah, je dis, venez voir. On a une salle de sport, et puis là, il y avait trois jeunes, il y en avait un qui avait ramené sa guitare, un qui avait ramené sa batterie, puis il y en a un autre qui avait ramené un petit synthé. Il me dit, c'est quoi? Bah, je dis, ça, c'est des hommes du GIGN. Il dit, il joue à la musique, oui, il joue à la musique.
C'est pas des robots qui...
Non, mais il dit, et puis il envoie un autre passé qui était tout mince, il dit, bah, c'est un mec du GIGN, il a battu des montagnes de muscles. Ouais. Comme je te dis, on n'est pas choisi pour notre... Alors on est bon physiquement, attention, hein, il y a un niveau extrêmement haut en sport, mais on n'est pas des athlètes de haut niveau. On va dire, on est moyen partout. Cette sensibilité, et surtout pour les négociateurs, comme je te l'ai dit, on communique avec nos sens, nos sensations. Donc plus tu vas être une personne sensible, plus tu vas pouvoir comprendre justement les émotions des autres. Et ça, c'est réellement important. Si tu es un bulldozer, si tu n'as pas d'empathie, tu ne vas pas pouvoir comprendre les autres. Tu ne vas pas pouvoir te mettre à la place des autres et donc tu vas être très mauvais en communication. Tu seras peut-être un super dirigeant, tu vas peut-être avoir de très très bonnes idées, mais pour embarquer tout le monde avec toi, tu vas avoir du mal.
Parce que tu ne sais pas te mettre à la place de l'autre.
Tu n'arrives pas à les comprendre. Oui. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est un gâteau. Quand tu fais un gâteau, il te faut des ingrédients, de la farine, des œufs. L'intelligence émotionnelle, il faut deux gros ingrédients, c'est l'empathie et la maîtrise de ses émotions. L'empathie, c'est comprendre les émotions des autres et puis après, maîtriser ses émotions.
Oui, parce que si tu es sensible au point qu'en fait, tu es submergé par les émotions de l'autre, du coup, tu n'as plus de pouvoir dans la relation.
Il ne faut pas confondre l'empathie et la sympathie. La sympathie, justement, c'est donner raison à l'autre, s'impliquer émotionnellement, ouais, tellement qu'on souffre avec l'autre. L'empathie, c'est on comprend pourquoi l'autre y souffre, mais on ne va pas souffrir avec lui. Moi, je faisais preuve de beaucoup d'empathie avec mes preneurs d'otages pour comprendre pourquoi, mais j'arrêtais à l'empathie. Je ne voulais surtout pas tomber dans la sympathie parce que sinon, je ne me relevais pas. Mais par contre, si je pouvais le faire tomber dans la sympathie, là, c'était gagné pour moi. Parce qu'on a tous quelqu'un de sympa autour de nous. Quand on a quelqu'un de sympa, je ne sais pas si tu as remarqué, on a du mal à lui dire non, on lui pardonne ses erreurs et on aime bien être avec lui. Donc, si moi, je pouvais le faire tomber dans la sympathie, eh ben, ça allait être beaucoup plus facile pour moi. Mais moi, je restais dans l'empathie, ouais. Il faut faire attention parce que quand on est trop sensible, on n'arrive pas à faire à la différence entre les deux.
J'ai une grosse partie de mon audience qui se développe de plus en plus, qui sont des dirigeants, qui ont des entreprises qui marchent bien. Effectivement, s'il y a un dirigeant qui a quand même ce côté bulldozer, est-ce qu'il peut développer cette empathie, cette sensibilité? Est-ce que tu observes ça dans les clients que toi, tu as?
Bien sûr. L'avantage de l'intelligence émotionnelle, hein, donc tu parles de cette empathie, ça peut se développer à tout âge par rapport au QI où il est assez fixe. L'important pour ces personnes, pour développer cette intelligence émotionnelle, cette empathie, c'est qu'ils fassent appel à quelqu'un. ils ne peuvent pas tout seuls développer leur intelligence émotionnelle. C'est impossible parce qu'ils sont assez pauvres en intelligence émotionnelle, ces gens-là. Ils sont très forts dans tout ce qui est projet et construction. D'ailleurs, ils sont souvent dans le futur, ces gens-là. C'est pour ça que leur société marche, parce qu'ils arrivent à avoir un coup d'avance. Mais après, en matière de communication, ils ont extrêmement de mal.
Oui, parce que la communication, c'est quelque chose de très présent.
Bien sûr, c'est présent, oui. Et dans communication, il y a mettre en commun. C'est extrêmement dur pour eux de rallier. Et souvent, ils ne sont pas aimés de leur staff parce qu'ils ont toujours une carte d'avance. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, on fixe un objectif. Moi, je suis le buzzer, on fixe un objectif. Tu as atteint l'objectif. L'équipe a atteint l'objectif. Ils vont faire un pot pour fêter l'objectif. Moi, je suis déjà dans un autre objectif.
Je ne m'intéresse plus. Là-dedans, ouais.
Moi, j'y vais quand même parce que je veux leur faire plaisir. Et puis là, on me dit, allez, vous pouvez dire un mot. Et je vais dire un mot qui va tout gâcher.
Qui n'est pas connecté au moment.
Ouais, voilà. Les gens sont dans le présent et moi, je suis déjà dans un autre objectif. Oui, alors c'est bien, bravo, mais ce qui nous attend, c'est mieux. Et là, ils vont se dire non. Donc, ils ont un problème de communication. Ils sont très forts pour les projets, pour tout ça, mais ils ont un problème. Donc, c'est important pour eux de se former, mais de se former avec quelqu'un d'extérieur. Ouais. Cette personne d'extérieur va pouvoir se permettre de leur dire des choses.
Tu vas lui faire du feedback, lui dire est-ce que tu vois ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu étais ailleurs? Tu sais comment on va s'y prendre, par exemple?
Et puis, ils acceptent la critique d'une personne extérieure qui n'accepterait pas la critique de quelqu'un de leur staff. Mmh.
C'est des choses que tu fais, toi, d'être avec un dirigeant, de lui donner du feedback.
Alors, je fais beaucoup de formations en de plus grand nombre. Admettons, j'arrête à 12-14 dirigeants, pas plus, parce qu'après, ça devient des conférences, on va dire. Mais en formation, oui, je fais des 12-14 personnes. Et c'est très bien parce que, justement, il y a une liberté d'expression qui se crée. Et entre eux, ils s'aident aussi. Même s'ils ne se connaissent pas, ils s'aident énormément. Ouais.
Tu recrées, en gros, le phénomène de l'équipe du GIGN avec des dirigeants.
Tout à fait.
Tu utilises ce côté justement d'en avoir un qui est empathique pour que les autres s'ouvrent?
Justement, j'essaye moi déjà d'être dans l'empathie pour leur montrer qu'au GIGN, on peut faire des missions et être dans l'empathie. Je raconte une mission qui m'a marqué. De ce fait-là, déjà, ça relativise. Nous, ça va.
Moi, je t'avoue que l'histoire que tu m'as racontée, tout va bien. Je suis très bien ici.
Alors souvent, ils me disent, oui, bon, ça n'a rien à voir avec vous, mais... Et là, boum, ça y est, c'est parti. Il y en a un qui parle, deux qui parlent, trois qui parlent, et puis voilà. Mais ce que je leur explique, c'est que mes missions n'étaient pas plus dures que les autres, parce que nous, c'était notre quotidien. Donc une fois qu'on a fait... Voilà, on est entraîné, on a une équipe, on a des pare-balles, on a des armes. On a, voilà, eux, ils ne sont pas entraînés pour ça, donc c'est peut-être plus stressant pour eux. Ouais.
C'est quoi l'événement dans ta vie? S'il y en a un, ou les événements qui, quelque part, ont créé ce désir chez toi de faire ce métier à la base. Tu vois, par exemple, moi, j'ai choisi de me dédier à tout ce qui est psychologie, l'accompagnement, et c'est pas par hasard. Je me détestais, je me trouvais nul, pas intéressant, j'avais du mal à m'exprimer, et c'est pas par hasard que j'ai mis autant de valeur sur la prise de parole en public. C'est quoi les événements qui font qu'à un moment donné, déjà, tu vas dans le GIGN et tu choisis cette spécialité négociation?
Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Moi, petit, pareil, j'étais très timide, pas forcément bon à l'école. À un certain moment, il y a eu le service militaire. À mon époque, il y avait le service militaire. Je fais mon service militaire et puis là, ça commence à me plaire parce qu'il y avait quand même des petits challenges entre nous. Il y avait des choses qui étaient super sympas. Alors, je connaissais le GIGN avant, mais pour moi, c'était inaccessible. Je me suis aperçu que j'avais des facultés en sport que je n'avais jamais découvert avant. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un jour tenter le GIGN. Et je pense que j'ai fait ça pour prouver que j'étais capable de faire des choses.
De prouver à toi-même.
Ouais, prouver à moi-même que j'étais capable. Prouver à ma famille aussi que j'étais capable de faire des choses hors normes.
Quand tu dis ta famille, c'est plus ton père,
ouais,
ta mère.
Voilà, mes parents.
Est-ce qu'il y a plus une personne en particulier où dans ta tête tu disais inconsciemment peut-être, par exemple moi je peux voir, j'ai mis du temps à le comprendre que entre ma mère et mon père c'est plus auprès de mon père que quelque part j'avais quelque chose à prouver. Est-ce que c'est le cas pour toi? C'est comment pour toi?
Alors je pense que c'est ta raison, c'est aussi soit c'est mon père mais aussi un peu mon frère parce que mon frère était très très bon en sport, il est plus vieux que moi, il a 5 ans de plus que moi, 5 ans de différence quand t'as 10 ans c'est énorme. Je me dis, mince, j'aimerais aussi être aussi bon que mon frère. Voilà. Donc, je pense que mon frère a été un moteur pour moi, oui. Par ses performances, tout ça, ça a été un moteur. Ouais.
Tu sais que Michael Jordan, c'est beaucoup ça. Il avait une grosse compétition entre les frères et sœurs. Et il y avait vraiment ce côté exister à côté de son frère.
Mais je pense que quand c'est sain, c'est bien, c'est une bonne compétition. Ouais. Tu sais, pendant ce challenge, pendant cette formation de 14 mois au GIGN, j'appelle ça les rescapés, ceux qui restent. Il n'y a pas de compétition entre eux. Et ceux qui sont pris, c'est ceux justement qui aident les autres. Le gros baraqué qui va être égoïste, qui va pas aider les autres, il va être viré. Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça au GIGN. Nous, on veut vraiment quelqu'un qui, même quand il souffre, il aide encore les autres, qui fait preuve d'empathie. Entre nous, quand à la fin, il y a plus de compétition, il y a vraiment une entraide entre nous. Et cette entraide est stimulante. Ouais.
Aujourd'hui, donc tu me disais, ça fait 14 ans que tu es à la retraite.
Ouais, 13 ans. Ouais.
13 ans. Déjà, j'imagine que tu n'as plus la même adrénaline et tu n'es plus réveillé à 2h du matin avant que ta femme te fasse des simulations de temps en temps. Alors, on se réveille, c'est parti. Donc déjà, commencer la transition et aussi, tu parles de groupe. En fait, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que pour exceller dans le GIGN, il y a tout un système qui est autour. Tu as un bon environnement, tu es entraîné. C'est pas toi tout seul qui arrive à exceller. Et du coup, tu te retrouves à être entrepreneur, t'es tout seul dans ta boîte. Comment tu recrées un petit peu des ingrédients que t'avais quand t'étais au GIGN pour exceller dans ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, c'est vrai qu'au GIGN, tout seul, on ne vaut rien. Tout seul, on ne peut rien faire. Notre force, c'est le groupe. On est, on va dire, un maillon d'une chaîne. Ce maillon est super important parce que s'il y a un qui casse, un qui lâche, ben c'est terminé, il n'y a plus rien. Il y a cette cohésion entre nous qui va faire qu'on va se surpasser. Une fois que tu sors du GIGN, bam, il n'y a plus personne, tu te trouves tout seul. Et là, c'est super dur. En fin de compte, cette adrénaline, bah, tu ne peux plus retrouver l'adrénaline que tu avais au GIGN. Il n'y a plus personne qui te tire dessus, heureusement. Il n'y a plus rien.
Ça s'organise, si tu veux.
Ouais, je sais bien, ouais. Il n'y a plus cette adrénaline. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est que le stress, peu importe la situation, reste identique. C'est-à-dire que souvent, je dis dans mes conférences, qu'est-ce qui est le plus stressant pour vous? Vous vous promenez au Canada, il y a un grizzly qui vous fonce dessus ou un client qui vous parle mal. Tout le monde me dit le client, parce que le grizzly, on va mourir, on sait qu'on va mourir. Le stress emprunte toujours le même chemin. Parce que vous savez que vous allez mourir, mais votre corps ne le sait pas. Votre corps sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne sait pas si c'est un client, il ne sait pas si c'est un grizzly. Donc, qu'est-ce qu'il va faire votre corps? Il faut savoir que le stress a une dimension psychologique et physiologique. Il va envoyer toute l'adrénaline. L'adrénaline, c'est la première phase du stress. Pour faire face, c'est physique l'adrénaline. Hein.
Quand on parle, ça te réveille.
Ouais. Et donc, le stress reste le même. En fin de compte, moi, quand je fais mes conférences, que j'arrive devant une conférence devant 500, ça m'est déjà arrivé de faire maximum 1000 ou 1500 personnes, je ne sais plus. Mais que ça soit 500 ou 200 ou 50 personnes, ben, y a l'appréhension d'abord. Tu sais que ça va être à ton tour. Est-ce que tu vas faire des parallèles? Est-ce que tu vas pas avoir un trou de mémoire? Donc moi, avant mes conférences, c'est un peu la mission GIGN. Je suis dans le noir, j'attends ma respiration, j'essaie de la calmer, j'essaie de... d'avoir une respiration calme et régulière. Mon corps ne sait pas si je suis toujours au GIGN ou si j'ai fait une conférence. Et cette adrénaline, je retrouve dans mes conférences, ça me fait énormément de bien. Ouais.
Et ce que j'adore dans ce que tu es en train de dire, qui je pense est super important, la prise de parole en public. En fait, moi, bon, entre autres, on a eu des cours de chant quand on était au collège, c'est très courant. Et je l'ai très mal vécu à cette époque-là, vu que j'étais pas à l'aise avec moi-même. J'ai eu l'impression que le prof et la classe foutaient de ma gueule. Ça a créé vraiment une peur de m'exprimer et parler. Pendant des années, du coup, quand j'avais une situation de prise de parole, je me mettais à avoir les mains moites, je me mettais à stresser, je me mettais à avoir l'adrénaline. J'ai mis des années à comprendre que cette adrénaline, elle n'était pas un problème en soi. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, oh là, merde, je commence à stresser, j'ai le pouls qui s'accélère, j'ai les mains moites, tu vois plus de la même manière. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que ça m'arrive encore plein de fois, avant une prise de parole en public, d'avoir quasiment les mêmes symptômes. Sauf que la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, tout va bien. J'ai juste les symptômes normaux que j'ai de temps en temps avant une prise de parole. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que le fait de me dire c'est normal, et ben d'un coup, le stress qui baisse, là où avant, je commençais à me dire, oulala, tiens, je suis en train de paniquer, ça va être horrible, je vais avoir des blancs, on va se foutre de ma gueule, ça va être, je vais pas gérer, et qui crée un vrai problème. La peur, c'est vicieux avec ce truc-là, parce que quand tu commences à penser que tes symptômes physiques, c'est le problème, du coup, ça s'empire.
Exactement.
Ouais. Et on voit bien avec toi que l'adrénaline, c'est pas du tout associé à un problème.
Ah non, pas du tout. C'est... Mais heureusement qu'il y a de l'adrénaline, parce que sinon, tu trouves pas les ressources pour donner de l'énergie à 1000 personnes qui sont devant toi ou pour donner de l'énergie à un forcené. L'adrénaline, c'est pas un problème, c'est quand t'arrives pas justement à maîtriser ces émotions, quand tu te fais embarquer par tes émotions. Mais où tu dis très bien, c'est que quand t'étais jeune, t'avais peur de chanter devant tout le monde. Pourquoi? Parce que t'avais pas confiance en toi. T'étais pas sûr dans tes capacités de chant. Moi, actuellement, tu me mets là, tu me demandes de faire de chanter, je vais stresser complètement parce que je sais que je vais pas être convaincant. Je sais que je sens très très mal et que je vais casser les oreilles à tout le monde. Toi, quand tu fais une conférence, tu es sûr que tu vas aider les gens. Tu es sûr que si les personnes t'écoutent, ils vont progresser. Tu es certain de ça. Moi, c'est pareil. À partir de là, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je dis et je sais que les gens vont sortir meilleurs que comme quand ils sont rentrés. Donc, ce stress, j'arrive à le maîtriser plus facilement. C'est quand on n'a pas confiance en soi, quand on a un doute en son produit ou quand on a un doute en ce qu'on dit ou en ce qu'on veut vendre. Là, oui, on stresse et on perd nos moyens. Ouais.
Plein de fois, tu parles d'entraînement. Il y a eu des simulations, vous entraînez, des heures de pratique. Quand j'interviewe des sportifs de haut niveau, c'est la même chose. J'ai demandé à Alain Bernard, donc en natation, comment tu fais la finale des Jeux Olympiques pour pas être stressé. Il me dit, tu sais David, bien sûr j'ai de l'adrénaline, mais en fait cette finale quelque part, je l'ai faite 1000 fois à l'entraînement. J'ai appelé mon séminaire « Entraîner pour réussir » pour te dire à quel point la notion d'entraînement, enfin j'ai de l'amour pour cette notion-là parce que c'est ce qui a changé ma vie. De toute façon, je serais pas là devant toi à l'aise comme je suis. Parce que lire, c'est super, apprendre des choses, c'est super. Et d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, ils prennent juste une pépite de ce que tu as dit et ils s'entraînent avec. Dans 2 ans, ils sont une personne qui est différente. J'aimerais profiter de tout ce que tu as dit pour appuyer pourquoi c'est important pour toi de s'entraîner. Et aussi, comment c'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais il est au GIGN, il y a de l'entraînement. Et c'est un truc qui est important pour moi de dire, mais en fait, tu peux t'entraîner tout le temps. Tu l'as dit, tu peux t'entraîner avec tes enfants, ta femme, ton mari. Et moi, le jour où j'ai réalisé ça, ça a changé ma vie. Parce que je me suis dit, OK, je voyais pas comment je pourrais être un jour confiant. Mais quand j'ai compris qu'avec l'entraînement, ça pouvait le faire, d'un coup, ça devenait accessible. Il suffit, David, que tu fasses tous les jours un petit truc. Dans 10 ans, tu auras changé ta vie. C'est quoi la valeur de l'entraînement pour réaliser ses rêves?
Déjà, il y a une très belle phrase, je sais plus de qui elle est. Si tu veux apprendre à nager, tu peux lire tous les livres du monde sur la natation. Si un certain moment tu ne descends pas dans une piscine, jamais tu seras nagé. Et ça, c'est important. Moi, quand j'ai fait les tests du GIGN, tu as peur de faire les tests du GIGN, hein, parce que déjà, tu vas au GIGN, il y a très peu qui sont pris. Et puis, tu te dis, est-ce que je suis assez bon pour rentrer au GIGN? À partir de là, je me suis dit, si je veux rentrer au GIGN, il faut que je m'entraîne. Pendant 3 ans, je me suis entraîné à fond. C'était un entraînement individuel, hein, personnel, en course à pied, natation, les pompes, les tractions, le parcours du combattant. Parce que j'étais gendarme, il faut faire 4 ans gendarme, avant 4 ans militaire avant de rentrer au GIGN. Donc je rentrais à 2h du matin, bah, j'allais courir, je mettais ma frontale et j'allais courir. Puis j'avais rencontré des jeunes aussi qui allaient courir, tout ça. Et je leur dis, mais vous vous entraînez pourquoi? Ah ben pour le GIGN. Ah ben je dis, moi aussi, vous voulez pas qu'on s'entraîne ensemble? À 4, on va être plus fort. Ah ouais, ouais, pas de problème. Et puis on se donnait rendez-vous à 2h du matin, on allait courir avec nos frontales et tout ça. Et je suis le seul à avoir passé les tests. Je pense que les autres n'étaient pas assez motivés. J'ai fait mes 10 ans au GIGN, je suis sorti du GIGN, puis j'ai rencontré un des jeunes qui s'est entraîné 10 ans après avec moi, et il me dit, ah mais tu sais que moi aussi j'aurais pu rentrer au GIGN. Bah, je dis, ouais, t'avais largement le niveau, t'étais même meilleur que moi en sport. Mais est-ce qu'il le voulait? Je pense qu'il ne le voulait pas autant que moi. Il était meilleur en sport que moi, mais il était moins motivé que moi. Cet entraînement, tout est affaire de motivation. J'aime bien ce terme motivation par rapport au terme de détermination. Moi, je n'étais pas déterminé, j'étais motivé. Dans le terme motivé, c'est le côté ludique. Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'était de rentrer au GIGN. Voilà, ça me faisait plaisir. Les autres, je pense qu'ils étaient peut-être déterminés, mais ils n'avaient pas cette fonction ludique et ils se sont fatigués en fin de compte. Quand on s'amuse pas, ben, il n'y a pas de plaisir. Et puis voilà. Cet entraînement individuel et collectif est réellement important. Moi, en mission, donc, j'avais un entraînement collectif, mais avant chaque mission, par exemple, quand j'étais dans la colonne d'assaut, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Je fermais les yeux, je prenais ma respiration et j'imaginais l'assaut. Donc je voyais, j'entendais top action dans mes oreillettes. Je courais, la porte qui explosait avec, on met de l'explosif sur la porte qui explosait, je rentrais, je voyais le couloir parce qu'on avait les plans, donc j'essayais de visualiser le couloir, hein, je voyais même la tapisserie, je voyais les meubles, alors que je n'étais jamais rentré dans l'appartement. Hein. Je sentais mon binôme qui me suivait, je voyais le preneur de tâche qui était là-bas, je le voyais avec son arme, je fonçais dessus, je voyais que j'avais le temps d'attraper son arme, que je le poussais, que je le menottais.
Tu vois ça au ralenti?
Au ralenti, mais avant de faire la mission.
Ah, ouais, bien sûr.
Et je sais pas si tu as déjà vu des parachutistes, quand ils sautent, avant au sol, ils font leurs gestes, ils répètent leur séance. Mais là, c'était pareil. Je faisais exactement la mission GIGN avant de rentrer. Et ça me permettait d'avoir un coup d'avance, même si l'intérieur de l'appartement n'était pas tout à fait le même, si la tapisserie n'était pas pareille, s'il y avait un meuble qui était... C'est pas grave, j'avais déjà fait la mission et ça me permettait d'être beaucoup plus serein. Ouais. L'entraînement, ça permet d'avoir une certaine sérénité, ouais.
Et tu réutilises ça aujourd'hui dans ta vie, ce côté fermer les yeux, imaginer la scène, voir au ralenti, tu le fais?
Bien sûr, des fois justement sur certaines formations, certaines conférences, surtout des conférences quand il y a beaucoup de personnes, quand j'entends les gens et le présentateur qui arrive, des fois, bah, comme tu l'as dit, il y a des fois tu stresses plus, je ne sais pas pourquoi, il y a des fois tu stresses plus qu'une autre fois, et donc j'ai remarqué quand je stressais plus qu'une autre fois, c'est quand je commence à douter de moi. Mais là tout de suite je ferme les yeux et je me vois rentrer sur la scène.
Tu fais toute la scène au ralenti, ouais. Des loges jusqu'à la scène.
Et voilà. Et je me vois rentrer sous la scène, je vois les gens qui m'applaudissent, je vois les gens qui sont heureux de me voir et je sais que je vais leur apporter des choses et je me vois commencer à parler, à être bien, à être serein devant eux. Et là, je vois mon stress qui diminue et je dis ok, c'est bon, voilà, je suis là pour eux.
Une fois que tu as fait une fois la visualisation, imaginons il reste encore 30 minutes d'attente, tu recommences?
Ouais, je peux recommencer, ouais. Si c'est parce qu'il y a des moments, ça m'arrive, et puis un scoop, boum, il y a un événement, ah, on a oublié de vous dire, et mince, c'est reparti, et là, t'attends une demi-heure. Donc là, tu t'es calmé, puis un scoop, si tu sens que le stress revient, et ben là, boum, je le refais, je ferme les yeux, et puis je me revois rentrer. En fin de compte, c'est parce que je perds un peu confiance en moi, et ça arrive, hein. Tu perds confiance en toi parce que t'as un petit doute, peut-être que t'as des problèmes familiaux ces temps-ci, t'as peut-être mal dormi, t'as quoi que ce soit. Et refaire ça, revoir la mission ou la scène avant de la faire, ça te permet de relativiser les choses. Ouais.
C'est clair. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Là, si on donnait des grosses clés sur le stress, bon, déjà, il y a tout l'entraînement qui est en amont. De visualiser l'entrée quelque part.
Positive, visualiser positivement. Ouais.
Visualiser positivement les premières minutes de l'intervention. Imaginons quelqu'un qui passe à la télé, ça se passe bien au début, et pendant la télé, il est sur le plateau télé, on lui pose une question qu'il n'a pas l'habitude, et là, il se met à paniquer, mais pendant. Dans une vidéo, tu parlais Aussi, alors c'est lié, mais comment prendre une décision rapide dans un moment critique? Il y a ce que j'ai fait en amont, c'est une grosse partie du travail, tu l'as dit. Et comment je fais si là je panique, ça arrive, j'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai pas prévu cette interaction-là, comment je fais pour me calmer dans le moment?
Alors déjà, si tu paniques, ça se voit. Faut pas se leurrer, les gens le voient quand il y a quelque chose. Tu changes de comportement. Si tu paniques, forcément, tu vas changer de comportement. Donc ça sert à rien de la cacher, cette panique. Au contraire, faut pas la dire non plus, mais faut pas avoir honte d'avoir un trou de mémoire. Faut pas avoir honte d'avoir de pas connaître les choses. Si tu sais pas, tu peux le dire. Hein. Moi, ça m'arrive des fois sur des formations. Là, je dis là, écoutez, là, je sèche, mais on va réfléchir tous ensemble et on va trouver la solution. Si tu commences à broder, ça va être pire parce que les gens vont dire bon. Il panique, mais en plus il dit n'importe quoi. Donc à un certain moment, il faut être clair avec toi-même, il faut être clair avec les autres. Si tu as un doute, si tu sais plus, il faut le dire. Voilà. Bon, écoutez, laissez-moi réfléchir quelques instants. Est-ce que vous avez une autre question? Et puis on reviendra sur cette question après. Et puis voilà. Et ça permet de ne pas mentir. Parce que si tu mens en plus, tu perds toute crédibilité. Ouais.
Alors ça, c'est un truc que je trouve hyper délicat, l'arbitrage entre... Là, la clé que tu donnes, qui est hyper intéressante, qui est encore une fois, on revient sur une forme d'humilité, vulnérabilité, exprimer ce que je ressens. Si on imagine un passage télé, ça va pas durer longtemps. Peut-être que je vais plutôt choisir le côté, je dis rien, je le garde à l'intérieur de moi. Parce que quand c'est dans les extrêmes, je trouve que c'est plus facile à imaginer. Si vraiment je suis pas bien du tout, là, il y a pas le choix, il vaut mieux que j'en parle. Mais imaginons, je suis sur un plateau télé et je commence à stresser, je commence à pas être bien. Je vois bien que ce que je raconte, c'est pas aussi pertinent que je peux le dire d'habitude. Comment je choisis? Là, il me reste 5 minutes d'antenne entre me dire je continue comme ça ou j'interromps et je dis là je suis pas bien. C'est comment je fais ce choix?
Alors, moi, par exemple, j'ai de la chance de passer quelques fois sur les infos. Quand je les ai pas, j'ai une technique. Je transforme la question. En fin de compte, soit je dis j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit parce que là je sais que je maîtrise. Je sais que ça va apporter une plus-value aussi. Ou alors je réponds mais vite, je transforme sa question et je vais sur un domaine que je maîtrise. Voilà. Parce qu'il y a des moments où on peut pas tout maîtriser. Il y a des moments, comme tu dis, il y a des moments où on peut paniquer aussi. Et le fait d'aller sur des sentiers qu'on maîtrise, ça tout de suite ça rabaisse. Tu vas apporter quelque chose en plus hein, parce que c'est vrai que la personne a dit quelque chose et ça t'a fait réfléchir à autre chose. Et donc ça va être constructif. Voilà.
Est-ce que tu pourrais partager avec nous un conseil, astuce qui est contre-intuitif, que même des personnes qui sont bonnes en négociation ont tendance à oublier ou passer à côté? C'est-à-dire des gens qui, c'est leur métier de négocier, de vendre, donc on va dire que les fondamentaux, ils les connaissent, mais ils passent à côté d'un détail, d'une subtilité qui, toi, qui a passé une grosse partie de ta vie à faire ça, tu te dis, ils sont très bons, mais peut-être que ce truc-là, en plus, ça ferait une différence pour eux.
Moi, souvent, je leur dis, il faut arrêter d'être le vendeur killer. C'est-à-dire arriver, tout maîtriser, bam, bam, bam. Il faut passer, être le commercial, pas killer, mais le commercial sensitif. Encore une fois, je reviens sur les sensations, sur l'émotion. Tout ce qui est vente, c'est émotion. T'achètes souvent par un coup de cœur, t'achètes souvent parce que t'as envie, t'achètes souvent parce que c'est l'émotion. Si tu sais pas mettre de l'émotion sur ton produit ou sur ton service que tu désires vendre, t'arriveras pas à fidéliser la personne. Ok, elle te dit oui, mais tu sais pas si demain elle va te dire non, elle va te rappeler en disant en fin de compte non. Moi, pareil avec mes preneurs d'otages, si j'étais froid, si je donnais pas envie à mon preneur d'otages de sortir, si je partageais pas mes émotions avec lui, c'était comme l'une de mes premières missions, le mec il est pas sorti. Si je reste sur du basique, si je reste sur des techniques, il n'y a aucun lien qui se crée. Donc, c'est du superficiel. Et à tout moment, la personne peut faire machine arrière. Donc, encore une fois, c'est ces émotions qui sont plus fortes que toutes les, on va dire, toutes les techniques et les tactiques de vente. Ouais.
Et donc, il y a les émotions. Est-ce que c'est bon si je synthétise pour moi en disant que la priorité, c'est la création de la relation avec la personne? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux dire?
Oui, moi je pense que c'est ça, c'est créer un lien avec la personne. Ouais.
Mon obsession dans la conversation, avant d'obtenir ce que je veux obtenir, c'est la relation. Tu dirais que c'est peut-être là où des gens le savent, mais l'oublient un peu.
Moi, je leur dis souvent, mettez-vous dans la peau d'un négociateur du GIGN quand vous êtes, par exemple, soit chef d'entreprise avec vos équipes ou soit un commercial devant votre client. Est-ce que, si c'est un preneur d'otage, vous permettriez de dire ça? Est-ce que vous permettrez directement de lui dire « Tiens, bonjour Bernard, GIGN, tu me libères deux otages ?» Non, le mec, il ne va pas vous libérer les otages. Vous allez d'abord vous intéresser à lui, à ce qu'il a fait. Et à partir de là, vous allez créer un lien. Je donne un exemple. La dernière fois, je vais pour acheter une voiture et le commercial arrive, bien fringué, tout ça. Il y avait un couple devant moi et il dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Et puis là, le couple dit « Ah oui, là, on revient de vacances, la voiture était remplie de bagages. Les enfants avaient des bagages à leurs pieds, on n'en pouvait plus, on ne veut plus revivre ça, ça nous a gâché nos vacances. » Le commercial les regarde, monsieur. Vous avez raison de regarder cette voiture. 250 chevaux, 7 vraies places, coffre, 800 décimètres cubes. Mais c'est pas ce qu'il aurait dû dire là. Il te donne plein d'informations et tu n'en tiens même pas compte. Comment s'appellent vos enfants? ils ont quel âge ? Il te dit qu'il a des enfants, tu sais même pas combien d'enfants il a, tu sais pas leur prénom, et là tu vas créer un lien. Et après, on va lui vendre. C'est comme le négociateur qui se concentre sur les otages, et tu lui libères deux otages, et ben, il va jamais les avoir.
Quand on se concentre sur les otages, quelque part, je me concentre sur ce que moi je veux.
Oui.
Comme le commercial qui se concentrerait sur...
Les caractéristiques. C'est rassurant parce qu'il les connaît par cœur. Sa voiture, il la connaissait par cœur. Donc, c'est rassurant. Mais aller à se mettre un peu en position de doute pour aller sur les émotions. Tout petit, on nous brime sur nos émotions. On dit, ne pleure pas, tiens-toi droit. Et non, il faut y aller sur ses émotions. Et on n'ose pas y aller sur des émotions. Mais c'est que ceux qui vont sur les émotions qui vont réellement faire grandir les autres et grandir eux-mêmes. Et puis, aller beaucoup plus loin. Ouais.
On a beaucoup parlé de la partie relation. Est-ce que ça t'arrive en tant que négociateur à un moment donné de changer complètement de ton et justement de dire « Oh non, ça suffit ». Est-ce que ça fait partie des techniques que vous avez d'à un moment donné pouvoir casser le schéma de la relation que vous avez installé et volontairement prendre un ton beaucoup plus assertif, beaucoup plus « Ok, ben, maintenant on va faire ça ». Est-ce que c'est possible de faire ça dans le contexte de la négociation ?
C'est possible de faire ça dans les séries américaines.
D'accord.
Mais en réalité, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça devant un client en disant « Bon, écoutez, là, maintenant ça suffit, vous mâchez le truc ». Le client, peut-être qu'il va avoir peur, il va dire « Ok, ok, je l'achète.
» Toi, avec un flingue, je pense que tu peux arriver à dire...
Mais demain, il va te téléphoner pour te dire « Si tu fais ça avec un preneur d'otage, il va te tuer un otage directement, la sanction est immédiate. » Il va dire « Mais pour qui vous me prenez là ? Il est en position de force, il a des otages, il est armé. » Tu ne peux pas faire ça.
Tu ne prends pas ce risque-là.
Non, tu ne prends pas ce risque-là. Même si des fois, tu as envie de le faire parce que c'est énervant. Mais non, tu prends sur toi. Si tu fais ça, tu vas tout gâcher. Ouais. C'est vrai que souvent, il y a des dirigeants bulldozers qui me disent « Oui, mais quand je me mets en colère, bam !»
Le client, il achète.
Le client, ou alors mes équipes font ce que j'ai fait. Oui, mais est-ce que demain, vous n'avez pas des arrêts maladie ? Ah bah si, un peu. Est-ce que vous n'avez pas du matériel qui disparaît ? Ah bah si, aussi. Ben voilà, les gens se vengent.
Il y a un contre-coup.
Ben oui, c'est logique.
Alors peut-être du coup, moins dans le côté bulldozer. Le côté confrontant, par exemple dans le métier de coaching, moi je vais clairement utiliser les deux couleurs, c'est-à-dire qu'il va avoir un moment d'écoute, d'empathie, te comprendre sur ce que tu vis, sur comment l'événement tu le vis, mais je peux aussi avoir un autre ton alors qui va pas être bulldozer mais qui va être dire tiens la dernière fois tu m'as dit ça et là tu me dis l'opposé et qui va être très utile dans la dynamique de coaching. Dans mon ton je vais pas être forcément beaucoup plus virulent mais par contre mes questions elles sont beaucoup plus confrontantes. Est-ce que dans le contexte de la négociation tu vois que ça peut être utile de confronter en fait.
Alors en coaching, je le fais aussi, hein, dans mes formations, je le fais aussi pour les bouger en fin de compte, pour leur faire prendre conscience pas mal de choses. En négociation, ça peut se faire aussi, mais sur un ton neutre. Et toujours leur laisser un échappatoire, ne jamais les bloquer. Parce que si tu le bloques, eh bien, il a que deux façons de réagir, c'est soit l'attaque, soit la soumission. Soit il va te rentrer dedans, et puis ou il va tuer un otage si c'est en mission, ou soit dans une vente, il va casser la vente. Ou alors, si quelqu'un a un autre tempérament, il va se soumettre, mais tu sais que le lendemain, tu ne le verras plus, ce client. Donc tu peux le faire, mais sur un ton neutre, voilà. Pour lui faire prendre conscience que là, peut-être, attention, il se moque un peu de toi, mais tiens, vous m'avez dit ça hier, hop, le mec, il va réfléchir et dire, oui, ce gars-là, il est sympa avec moi, et je suis en train de le mentir, allez.
Oui, mais c'est un peu ce que tu as fait dans l'exemple que tu as dit, où tu as dit, pourtant, tu m'avais dit que je pouvais...
Faire confiance.
Ouais, te faire confiance. Quelque part, à ce moment-là, tu es confrontant.
Bien sûr.
Mais c'est calme et c'est...
C'est calme et c'est avec de l'empathie, oui. Toujours mettre de l'empathie dessus. Si tu le fais sur un ton agressif, on va te le reprocher. Si tu le fais sur un ton empathique, eh bien, les gens peuvent pas te le reprocher parce que tu fais ça pour leur bien, tu fais ça pour ton bien. Et puis là, il n'y a plus de problème.
Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager, dire ?
Peut-être une chose importante, c'est quand même que les gens pensent à chaque coup à leur première impression. Cette première impression, elle est capitale quand même. Dans les premiers instants d'une rencontre, il y a un instinct animal qui se crée. Alors déjà, on est vu et seulement après entendu. Hein. Quand je suis rentré, t'as vu, on s'est vu d'abord. On a échangé des regards, on s'est évalué, on n'a pas échangé de mots.
Moi, je vérifiais que tu n'avais pas d'arme. Hein,
ouais. Mais j'en ai peut-être une. Hein.
Ah,
et il y a cette évaluation. Donc cette première impression, comme je te l'ai dit au début, il faut prouver à tout le monde qu'on est le meilleur avant même de prononcer un mot. Donc cette première impression, elle est capitale parce que dans les premières centièmes de seconde d'une rencontre, il y a l'instinct animal qui se crée. La personne va t'évaluer d'une façon inconsciente, mais elle va se dire, tiens, est-ce que je me sens bien ou pas bien avec lui ? Il y avait un ressenti, tiens, la personne, elle est agréable, elle ne sait pas pourquoi, ou alors la personne, elle dit, lui, je ne le sens pas. Ça nous arrive des fois dans des soirées, hein. Il y a 100 personnes, c'est super agréable, putain, ce coup, t'en vois un, tu dis, putain, lui, je ne le sens pas. Ça arrive à tout le monde. Donc, cette première impression, elle est capitale, là. Faire en sorte que cette première impression se passe bien.
Mais alors, comment je peux faire, du coup, pour
En faisant attention à ne pas avoir des gestes, justement, par choc, être souriant. Est-ce que je regarde mon client ? Est-ce que je regarde la personne qui est en face de moi ? Est-ce que je lui donne de l'énergie par ma posture ? Est-ce que je me penche vers lui quand il me parle ? Est-ce que j'ai des gestes ouverts ? Ou alors, est-ce que j'ai l'air fatigué ? Est-ce que je regarde mes pompes ? Est-ce que, de temps en temps, quand il me parle, oui, je vous écoute, hein, je regarde mon téléphone, non, mais c'est pas important. Est-ce que je lui montre qu'il est important pour moi ? Voilà. C'est ça, la première impression.
C'est bon, ça. C'est une belle phrase de conclusion.
Mais merci.
Merci à toi, en tout cas, c'était vraiment cool.
Merci.